Bien, nous allons reprendre. Lors de la dernière leçon, je me suis efforcé de montrer, en prenant l'exemple des Tsimshian, des Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, que des sociétés pouvaient combiner une ontologie dominante, disons, en l'occurrence animique, et une ontologie secondaire peut-être, ou récessive, en l'occurrence totémique. Et j'avais commencé à examiner les différences entre les types d'images associées à chacune de ces ontologies, et je vais en donner un récapitulatif. Donc, on a deux classes d'images. Les images animiques, elles ont chacune des noms différents, qui sont des objets alaïtes. Les images totémiques sont des blasons qui s'appellent ayuk. Les images animiques représentent un esprit nommé Nashnok. Les images totémiques représentent un ensemble de qualités contrastives synthétisées dans un totem nommé Ptex. Les motifs des images animiques sont acquis à présent par une interaction d'un contemporain avec un esprit. Les images totémiques sont des motifs qui ont été acquis jadis par une interaction d'un ancêtre avec un esprit, qui se sont ensuite stabilisés. Les images animiques font partie du patrimoine d'un individu, un chef, un chaman ou d'un groupe, une maison ou une société initiatique, et rend possible l'accès à un savoir et un pouvoir. Tandis que les images totémiques sont le patrimoine exclusif d'une maison ou d'une lignée, mais sont contrôlées par les chefs. Et ils légitiment l'accès à un territoire, c'est-à-dire à des ressources. Les images animiques sont faites par des spécialistes qui ont un statut élevé, alors que les images totémiques sont faites par d'autres spécialistes qui ont un statut inférieur. Les images animiques sont actualisées par des rituels où les esprits sont présents, incarnés par des acteurs, tandis que les images totémiques sont validées par un potlatch suite à un récit étiologique qui commémore les circonstances de leur obtention et qui sont en outre validées doivent être validés par le récit du lien généalogique entre la personne qui réclame cette image ou ce blason et l'ancêtre en question. Enfin, les supports sur lesquels ils sont figurés sont différents. Ce sont soit des masques, des hochets ou des têtes de harpons dans le cas des images animiques. Ce sont des mâts héraldiques, des frontons de maison, des peintures sur des frontons de maison, des coiffures, notamment les frontaux. On appelle frontaux ces espèces de petites plaques de bois sculptées que l'on portait sur le en haut de la tête en couronne, et les robes de cérémonie. Donc, on voit que ces images s'opposent à peu près en tout, dans ce qu'elles sont réputées figurer, dans la façon dont on les obtient, dans le statut de ceux qui les fabriquent, dans ce à quoi elles donnent accès, dans le type d'usage auquel elles sont employées, et dans le type de support sur lequel elles sont figurées. Alors, revenons maintenant un peu plus en détail sur chacun de ces types d'images. Et je voudrais commencer par les blasons et examiner un peu la structure générale du système des blasons. Ce système est assez différent chez les Tsimshian de ce qu'il est parmi d'autres populations de la côte nord-ouest, notamment les voisins des Tsimshian, les Tlingit et les Haïda, en ce que chaque espèce animale héraldique était elle-même subdivisée en un grand nombre de variétés, c'est-à-dire en un grand nombre de figurations différentes, et c'était chacune de ces figurations qui était possédée par une maison particulière. Par exemple, les Haïda avaient un seul blason du corbeau, tandis que les Tsimshian en avaient plus d'une douzaine, chacun avec son nom spécifique, le corbeau-chef, le corbeau suspendu par une serre, le corbeau blanc, le corbeau mangeur de foie de saumon, le corbeau fendu, etc. etc. Cela tient au fait que, par contraste avec leurs voisins, les Tsimshian possédaient une hiérarchie segmentaire interne au groupe de filiation. Autrement dit, les sous-blasons représentaient autant de positions rangées par ordre hiérarchique à l'intérieur de groupes de filiation qui était représenté par un blason englobant, disons. Alors cette distinction, elle est intéressante, car elle permet de mettre en évidence que le totémisme Tsimshian n'est pas simplement un dispositif classificatoire d'unité sociale au sens de la thèse que Lévi-Strauss a développée dans le totémisme aujourd'hui. En effet, il n'y a pas véritablement ici, et je reprends la formule de Lévi-Strauss, une homologie entre deux systèmes de différence, l'un qui relève de la nature et l'autre de la culture, puisque les subdivisions de blason ne sont justement pas des différences entre espèces. Ce n'est pas la nature qui, ici, offre à la pensée une différence ostensible entre le corbeau prince et le corbeau assis tranquillement, pour reprendre deux noms de blason. Car il n'y a rien de naturel dans le contraste entre ces deux avatars du blason corbeau. C'est au contraire la culture, pour reprendre la terminologie de Lévi-Strauss, qui impose ici une différenciation interne à la nature et qui joue donc le rôle d'opérateur totémique pour surdéterminer une autre différence culturelle qui est celle entre les clans. Donc les subdivisions de chaque blason renvoient aux circonstances initiales et pragmatiques de l'association entre un individu humain et un représentant de l'espèce totémique, particularisée par les conditions de cette rencontre. Il ne renvoie pas à des variétés naturelles, en quelque sorte, de l'espèce totémique. Le corbeau assis tranquillement n'est pas plus une variété naturelle du corbeau que le corbeau suspendu par une serre. D'autant que, comme on va le voir, il existait un nombre non négligeable de blasons représentant des humains, ce qui exclut évidemment toute possibilité de les considérer comme des sortes de gabarits naturels de différences sociales. Alors revenons à l'examen détaillé des blasons pour comprendre les principes des subdivisions. Ces subdivisions résultent de la mise en œuvre aux 8 espèces animales qui forment les blasons totémiques de base, d'un groupe d'opérateurs qui transforme ces espèces en un ensemble de formes particularisées. Alors ces opérateurs sont des attributs relativement généraux, abstraits des noms et de la description des blasons particuliers. Dans certains cas, ces attributs sont sans ambiguïté. Par exemple, le qualificatif réel qui s'applique à l'orque comme à la grenouille, ou le descripteur du ciel qui s'applique au corbeau et au grizzly. Mais les associations sont le plus souvent beaucoup plus complexes. Par exemple, le qualificatif de prince qui s'applique à 7 des 8 animaux totémiques, comme principe de formateur de blason, se dit Ikuwexak, le préfixe Iku se référant au jeune saumon, frais et argenté. Or, les blasons du type prince, de telle ou telle espèce, étaient toujours décrits comme décorés avec des plaques d'ormeau ou d'haliotite, si vous voulez, c'est un grand coquillage nacré qui est très commun sur le littoral de la côte nord-ouest, conduisant donc à inférer une association entre l'iridescence de la nacre et l'iridescence de la peau du saumon. Alors ces systèmes de qualité auxquels les blasons se réfèrent s'organisent généralement en groupes de contrastes. Contraste selon que la couleur du blason est spécifiée ou non, selon que le blason est fendu ou entier, selon qu'il comporte des ormeaux ou des halieutides ou pas, selon la localisation de son habitat, sur l'eau, sur la terre, dans la montagne, au ciel, selon qu'il est jeune ou adulte, selon qu'il se réfère à la tête ou au corps, selon qu'il est debout ou assis, selon qu'il a un ornement en cuivre ou une partie en cuivre ou pas, selon qu'il a une forme unique ou une forme multiple, selon qu'il a une face humaine ou non, etc. etc. Il y en a un grand nombre de ce type. Et dans le tableau que je vais vous montrer ici, on a un groupe de 5 opérateurs qui sont hormo ou halieutide, fendu, jeune, visage humain et blanc, qui s'appliquent au blason primaire, loup, ours, grizzly, orque, grenouille, corbeau, aigle et castor, et qui vont donc spécifier chacun d'entre eux pour faire autant de blasons particuliers. Donc ces opérateurs ont été appliqués aux huit animaux totémiques primaires afin de produire 20 blasons qui sont tous mentionnés par les informateurs de Marius Barbeau, l'un des grands ethnographes des Tsimshian. Et chaque blason particulier peut en général être identifié par un trait iconographique dénotant l'opérateur qui le caractérise. Une figuration d'ours, par exemple, avec des incrustations de nacre d'halieutide, sera prince des ours. Une figuration de grenouille avec un visage humain sera grenouille esprit. Il en va de même pour les attributs de localisation. Ainsi, une figuration de grizzly avec une nageoire sera le grizzly de la mer. Alors, comme je l'ai dit, un bon nombre de blasons représentent des figures humaines. Par exemple, l'homme à deux têtes, l'être entier, la robe d'escalpe. Et si certains de ces blasons ou ces figures humaines sont des ancêtres qui sont définis comme réels, la majorité d'entre eux sont plutôt des esprits à forme humaine, qui sont pour les Tsimshian tout aussi réels, mais avec lesquels ils n'ont pas de connexion généalogique, et qui se manifestèrent jadis aux ancêtres des clans, qui les adoptèrent comme des blasons. Une autre catégorie de blasons fort commune, c'est la catégorie des chimères ou des monstres. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne s'agit pas de chimères au sens où je les ai définies auparavant dans la figuration analogiste, c'est-à-dire des êtres composites dont les éléments sont empruntés à divers registres du vivant ou de l'inanimé. Il s'agit en fait de juxtaposition de deux êtres destinés à figurer la métamorphose de l'un en l'autre, tel qu'un mythe décrit ce changement de forme, opération qui permet de rajouter un attribut supplémentaire au blason. Par exemple, le grizzly doté d'une nageoire et qui est dit de ce fait de la mer rajoute une qualité supplémentaire par cette métamorphose. Et un tel processus permet en particulier de donner une expression visible, une expression figurée à la fusion de qualités qui résulte de la fusion de deux groupes possédant des blasons distincts. Si on admet qu'il y a une forte dimension ontologique, en effet, dans le totémisme Tsimshian, la question de la fusion des groupes totémiques pose évidemment une question intéressante, puisqu'ils ont des attributs différents qui viennent d'associations différentes avec des êtres mythiques, des esprits, etc. Que se passe-t-il lorsqu'ils se réunissent ? Alors c'est un tel cas qui s'est passé, par exemple, lorsque une tribu de l'intérieur qui avait le grizzly comme blason, à la suite d'une malédiction des esprits qu'ils avaient maltraités, etc., dut quitter son village et émigrer vers la côte, donc chez les Tsimshian de la côte, où elle s'agrégea à un groupe appartenant au même clan. mais qui avait comme blason principal, non pas le grizzly, mais l'orque. L'union des deux groupes aboutit à un échange de blasons, de sorte que ceux de l'intérieur adoptèrent l'orque, désormais qualifié d'orque des collines, tandis que ceux de la côte adoptèrent le grizzly, désormais qualifié de grizzly de la mer. Chacun ajoutant ainsi une partie des qualités de l'autre par le biais de cette sorte de métamorphose croisée. Donc, on voit bien que, loin d'être des blasons ou des images totémiques servant la différenciation, le grizzly de la mer ou l'orque des collines sont des blasons intégrateurs, en quelque sorte. Ils ne se servent pas des contrastes entre les espèces naturelles afin de signifier des contrastes entre des groupes sociaux, comme le veut la théorie classificatoire du totémisme. Au contraire, ils fusionnent dans une image prototypique des qualités auparavant séparées afin de requalifier l'ontologie d'un collectif humain dont les caractéristiques dépendent en partie de l'histoire de ses relations passées avec des esprits animaux. Ces relations et les blasons qui les illustrent sont décrites dans les mythes et il convient de se pencher un moment sur ce que sont ces mythes. Alors, lorsqu'on regarde la mythologie de Tsimshian, à commencer par les premiers textes recueillis par l'ethnographie, qui sont les textes de Boas, et puis l'importante collection réunie par Barbeau et Bennon, elle est typiquement animiste, dans son principe. Et le régime ontologique qu'elle dépeint est tout à fait semblable à celui dont la mythologie amazonienne s'attache à rendre compte. Au fil du temps, du temps du mythe, en effet, ce n'est pas une très bonne expression, mais prenons-la par commodité, disons, les humains et les non-humains étaient presque en tout point semblables. Tous les existants étaient dotés d'une conscience réflexive, d'une âme, ils menaient tous une vie sociale, une vie culturelle. Ils avaient tous des corps de type humain, et notamment les animaux, qui portaient en outre sur ces corps les vêtements corporels propres à leur espèce, dont ils pouvaient, à l'occasion, se dépouiller pour se faire voir sous leur apparence humaine. C'est un grand classique des ontologies animiques. La seule différence entre humains et non-humains était que les humains étaient dépourvus des dispositions, des pouvoirs, des savoirs que les animaux, en particulier, détenaient et dont ils se servaient, ou les esprits en général, les non-humains, dont ils se servaient pour chasser les corps et les âmes des humains. Prédation nécessaire à la survie des non-humains. Et la seule possibilité qu'avait les humains de se défendre consistait donc à acquérir auprès des non-humains des pouvoirs et des dispositions spéciales, non pas sous la forme de savoir discursif, de savoir propositionnel ou de savoir même magique, mais en devenant un peu comme les non-humains qu'ils cherchaient à émuler, en partageant donc un peu de leur essence, disons. Et une fois contractée, cette sorte de contamination ontologique pouvait être transmise de génération en génération dans une lignée, dans une maison. En même temps, évidemment, que les qualités qui résultaient de cette contamination. Et au fond, les mythes relatent les circonstances particulières dans lesquels certains humains ont acquis ces dispositions non humaines transmissibles, parfois en les volant, parfois à la suite d'un don, ou simplement par contact ou à la suite d'une interaction quelconque. Ces dispositions sont ainsi incorporées dans les blasons et leur activation au bénéfice des descendants de celui qui les a obtenus jadis passe donc nécessairement par le récit des circonstances de cette obtention. Bien que ces pouvoirs et dispositions incorporés dans les blasons aient été obtenus à l'origine par des individus, ces pouvoirs et dispositions sont le patrimoine d'une maison. Toutefois, les chefs des maisons ont un rapport particulier à ces attributs totémiques, en ce que, ayant hérité des noms des ancêtres qui ont acquis ces dispositions, ils sont en mesure d'activer ces attributs au bénéfice de la maison. Tant ces dispositions que les blasons et les noms qui les incarnent sont ainsi étroitement associés, et ils sont associés au territoire où ils furent jadis obtenus et où résidaient les non-humains qui en sont à l'origine. Donc le patrimoine totémique d'une maison est aussi un patrimoine territorial et fonde le droit d'accès d'une maison au territoire de chasse et de pêche qu'elle exploite. On a ainsi un système qui combine tous les traits d'une ontologie adimique avec quelques traits saillants d'une ontologie totémique. Ontologie animique, car les non-humains ont une âme et des enveloppes corporelles amovibles, qu'ils mènent une vie sociale et culturelle, semblable à celle des humains, qu'ils ont des dispositions que les humains n'ont pas et que les humains doivent se procurer auprès d'eux. Donc ça, c'est tout à fait classique de l'animisme. Mais il s'agit aussi d'une ontologie totémique qui présente, je l'ai déjà dit, certaines affinités avec le régime australien et qui est en tout cas beaucoup plus qu'un système classificatoire au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire beaucoup plus qu'une utilisation des discontinuités naturelles pour penser et nommer les discontinuités sociales. D'abord, parce que le système des blasons ne forme pas, comme on l'a vu, une série naturelle, puisqu'il inclut toutes sortes d'éléments non naturels et qui ne diffèrent pas entre eux comme pourraient le faire des espèces. Ensuite, parce que chaque blason renvoie à des pouvoirs et dispositions obtenus par un individu auprès des non-humains, et qu'il s'agit donc de plus et autre chose qu'un simple signe contrastif. Ces pouvoirs et ces dispositions deviennent en effet un patrimoine collectif transmissible selon des modalités strictes, dont la somme, c'est-à-dire l'agrégation de tous les noms et de tous les blasons d'une maison forme une sorte de nature qui lui est propre, une nature au sens de la fusis aristotélicienne, ce qui fait qu'une espèce a une caractéristique propre. Donc c'est comme une identité qui est fondée sur le cumul de tous les attributs que les ancêtres du groupe de filiation ont réussi à se procurer auprès des non-humains. Alors, il est vrai que cette transmission doit être réactivée régulièrement et validée publiquement dans des cérémonies, les potlatches, ce qui leur donne un caractère plus mobile, moins intrinsèque, si on peut dire, que les qualités physiques et morales qui se perpétuent au sein des groupes totémiques australiens. Une autre différence par rapport au totémisme australien, c'est que les dispositions acquises auprès des non-humains ne concernent que le groupe humain qui en bénéficie, en sus du groupe de non-humains qui en est à l'origine, et non un collectif, comme c'est le cas en Australie, un collectif mixte d'humains et de non-humains ayant une même origine. Donc là, c'est une différence qui est loin d'être négligeable. Tout comme en Australie, toutefois, les non-humains auxquels les humains sont associés ne sont pas ici des animaux ou des plantes ordinaires avec lesquels une identification serait possible sur la base, par exemple, de ressemblances physiques. Les membres d'une maison ne disent pas qu'ils ont une ressemblance physique avec le loup, avec l'orque ou avec le corbeau. Tout comme les êtres du rêve, à l'origine de l'identification ontologique des groupes totémiques australiens, sont des prototypes qui, en dehors du nom qui les désigne, on peut avoir avec tel ou tel existant réel. De même, les sources des dispositions que les ancêtres des Tsimshian ont obtenues ne sont pas un ours ou un loup ou un corbeau ou un grizzly, comme celui qu'un naturaliste, non pas au sens d'un spécialiste de la nature, mais d'un naturaliste tel que chacun d'entre nous peut observer dans un zoo, ce sont des esprits animaux menant une vie semblable aux humains et avec lesquels ses ancêtres ont noué une relation de personne à personne. Donc dans l'un et l'autre cas, on observe nulle attitude de respect, par exemple, vis-à-vis d'un animal perçu comme un ancêtre, selon l'image que véhiculaient les anciennes théories du totémisme, chez Fraser par exemple, mais plutôt la reconnaissance que des groupes d'humains se transmettent des qualités et des aptitudes qui procèdent d'une origine non humaine spécifique et reconnaissable. Alors, je voudrais examiner deux récits Tsimshian pour bien préciser les caractéristiques qui relèvent, disons, de l'animisme dans un cas et du totémisme dans l'autre. Et ce sont des récits, donc des mythes, qui mettent en scène les événements à l'origine des blasons. Et leur analyse permet de mieux comprendre ce qui est en jeu dans ces transmissions de qualités que je viens d'évoquer. Le premier mythe, c'est l'histoire du loup blanc, qui a été recueilli par William Bennon en 1952. Bennon, donc, qui avait travaillé, était un assistant de Marius Barbeau. Et donc c'est un résumé de l'histoire. Alors il y avait chez les Nishka, donc l'un des trois grands groupes dialectaux des Tsimshian, un grand chasseur du nom de Gadaswo, qui était un chef important du clan des loups. Il était tellement efficace comme chasseur que les animaux décidèrent de s'en débarrasser et ils chargèrent les loups de cette tâche, puisque Gadaswo était de leur clan. Le chef de tous les loups était un grand loup blanc qui avait toujours réussi à échapper aux chasseurs les plus habiles, et c'est pourquoi Gadaswo était désireux de le tuer et d'en faire son blason. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de respect particulier vis-à-vis de l'animal totémique. Un jour, Gadaswo partit avec son grand-père afin de trouver un beau cèdre pour faire une pirogue. Donc il remonte une rivière et puis se sépare à un moment et puis se rend à l'évidence vers le soir que son grand-père a disparu. Il suit sa trace et il tombe sur une petite maison où vivait la femme souris. Celle-ci l'informe que les loups avaient pris son grand-père pour l'engraisser et le manger au cours d'une grande fête. La femme souris lui donne une protection magique, c'est pas très clair, mais à l'évidence c'est quelque chose qui le rend invisible. Et lui indique où était le village des loups. Donc Gadaswo se rend dans le village des loups, il voit des loups de toutes sortes. Certains portaient des capes noires, d'autres des capes rouges et grises, et l'un, un homme gigantesque, c'est l'expression qui est employée, donc ce sont des humains portant des capes de fourrure, portait une cape blanche. Il chercha son grand-père de maison en maison, et aboutit dans la maison la plus grande, où le grand loup blanc, donc cet homme gigantesque portant une cape blanche, s'apprêtait à prendre son bain de purification. Son grand-père était aussi dans cette maison. La femme souris qui l'avait accompagné informa Gadaswo que le chef loup blanc allait se purifier durant 4 jours, au terme desquels il prendrait un bain final dans un torrent. Là, il enlèverait sa cape blanche, s'immergerait nu dans le torrent. Il fallait donc saisir l'occasion, lui dit-elle, pour s'emparer de sa cape et s'échapper avec son grand-père. C'est un motif classique dans la mythologie animique de l'ère circumpolaire. Le fait que dans certaines circonstances, on peut voler le costume, l'enveloppe corporelle des animaux. Gadasso suivit donc son conseil, profita du bain de loup blanc pour lui dérober son immense cape blanche avant de s'enfuir. Et lorsque loup blanc sortit de l'eau et s'aperçut que sa cape avait disparu, il cria « Je sens l'odeur de Gadasso, poursuivons-le ». Et tous les loups se mirent à suivre sa piste. Au moment où ils étaient prêts de le rejoindre, Gadasso grimpa dans un grand épicéa. Les loups attaquèrent la racine de l'arbre, mais fatigués, s'endormirent pour la nuit. Alors Gadasso en profita pour descendre, poursuivre sa route, et il répète cette opération à plusieurs reprises, et il réussit, grâce à toutes sortes d'habiles subterfuges que je ne vais pas décrire, à se débarrasser de tous ses poursuivants, de tous les loups. Pendant ce temps, le grand-père de Gadasso s'enfuit du village qui était déserté par les loups, et en partant, il entendit le grand loup blanc se lamenter de n'avoir plus sa cape à porter. Il chantait « Gadasso a pris ma peau ». Le grand-père et son petit-fils se retrouvèrent, regagnèrent leur village. Là, Gadasso convoqua une grande fête au cours de laquelle il prit le loup blanc comme blason et comme nom de chef. Donc c'est un mythe animique classique, avec le voyage du héros chez des êtres qui se voient et se comportent comme des humains, qui vivent dans des villages, etc. Et le seul indice de leur identité collective, c'est le vêtement corporel qu'ils endossent. Fourrure noire et rouge, ou grise et rouge, fourrure blanche. Et le vol de ce vêtement par un humain qui en tire un pouvoir est également un classique du genre, avec cette nuance ici, que cet exploit et tout ce qu'il rend possible s'incarne dans un blason. C'est ça la différence par rapport à ce qu'on trouve des histoires similaires ailleurs dans l'ère circumpolaire et même parfois en Amazonie, s'incarne dans un blason et devient une qualité transmissible de génération en génération. Mais il est possible aussi pour un humain de continuer à porter le vêtement du loup comme un blason et de bénéficier ainsi des dispositions qu'il comporte. Et donc le blason à ce moment-là est à la limite et quelque chose qui est entre un blason et un dispositif animique pour récupérer des dispositions empruntées aux animaux. C'est ce qu'on voit dans cette photo d'un chef loup du village de Guitlax-Damsk qui porte donc la fourrure du loup blanc. L'idée étant que c'est le même blason, la même fourrure, le même corps animal que celui qui fut dérobé par un ancêtre. Deuxième mythe, deuxième histoire, également recueillie par William Bainon en 1954, et qui est intitulée « Comment les Tsimshian savent que les animaux ont des blasons ?» Alors l'histoire est la suivante, il y a bien longtemps, quatre chasseurs Tsimshian prirent la mer pour chasser des phoques et ils firent halte dans une île pour se reposer. Ils savaient que c'était à proximité que vivait le poulpe géant qui avait entraîné bien des pirogues au fond de la mer. Ils virent bientôt une grande orque avec un trou distinctif dans sa nageoire dorsale, plongé vers la retraite subaquatique du poulpe, puis, après longtemps, refaire surface dans un nuage de sang. Cet orque, c'était le prince des orques, et l'un de ses compagnons, voyant son cadavre, avertit tous les orques du monde de ce qui était arrivé. Donc tous les orques se réunissent dans la maison du chef des orques, qui leur dit « Il faut nous venger du grand poulpe, il a tué mon neveu, qui devait me succéder, c'est une filiation matrilinéaire, il a entraîné bien des pirogues au fond de la mer, il faut le tuer, ou il va tous nous tuer. » Peu après, les quatre chasseurs virent arriver un très grand nombre d'orques et s'approcher de la tanière sous-marine du poulpe géant. Les orques se divisèrent en quatre groupes, et les chasseurs comprirent immédiatement que cette division était semblable à celle des quatre clans Tsimshian, d'autant que chaque groupe avait son propre blason, des marques distinctives sur sa nageoire dorsale, et avait aussi son propre chef. Et le récit décrit comment les orques de chacun des clans livrèrent bataille aux poulpes géants. Alors les premiers attaqués furent ceux du clan de l'aigle, dont la nageoire dorsale portait en blason des cercles blancs représentant le bâton rongé par le castor, qui est un motif iconographique classique, non seulement chez les Tsimshian, mais dans d'autres groupes de la côte nord-ouest. Les orques aigles périrent tous, les uns après les autres, mais le dernier rapporta une tentacule du poulpe. Puis, les orques du clan de l'orque se lancèrent à l'attaque, et leur chef, ayant comme blason un trou dans la nageoire dorsale, les mena au combat. La plupart périrent, mais ils remontèrent avec un autre tentacule de la pieuvre géante. Puis ce fut au tour des orques du groupe des loups, dont le chef avait une nageoire en forme de queue de loup. Ils combattirent longuement le poulpe géant et tous furent tués, non sans avoir ramené trois des tentacules du poulpe géant. Il ne restait plus que les orques corbeaux. Le chef des orques dit à leur chef, dont la nageoire avait la forme d'un bec de corbeau, « Il n'y a plus que vous pour vaincre le poulpe géant. » Et l'orque corbeau dit « J'irai seul. » Et il plongea. Trois fois, l'orque corbeau partit au combat. Chaque fois, il ramena des tentacules. Et la dernière fois, il revint presque mort de son combat et dut se reposer toute la nuit. Donc il ramena trois tentacules. À l'aube, les chasseurs Tsimshian virent que le chef des orques corbeaux se préparait à nouveau à plonger. Il resta sous l'eau presque toute la journée. La mer était rouge de sang et vers le soir, une énorme masse visqueuse remonta à la surface. C'était le poulpe géant, enfin mort. Quant au chef des orques corbeaux, il revint peu après avec le tentacule du poulpe en bandoulière et tous le croyait mort, mais il survécut. Et c'est ainsi que le poulpe géant fut tué par les quatre groupes totémiques des orques. Et c'est comme cela que les humains savent que les animaux, en particulier, enfin les orques en tout cas, ont des blasons. Alors c'est un mythe qui est très intéressant, car il met bien en évidence le caractère composite de l'ontologie Tsimshian, comparativement au mythe précédent, au mythe du loup blanc. En effet, la structure générale, elle est indubitablement animique. On y voit ce que j'ai appelé ailleurs une tribu-espèce, à savoir les orques, mener une existence assez semblable à celle des humains. Ils vivent dans des maisons, ils se déplacent en pirogue, parce que précisément ils se plaignent que le poulpe fait couler leur pirogue. Ils possèdent un régime politique qui est analogue à celui des Tsimshian, avec notamment une chefferie où c'est le neveu qui succède à son oncle utérin. La seule différence notable avec les humains, c'est que les membres de cette tribu-espèce ont une enveloppe corporelle qui leur permet de faire des choses que les humains ne peuvent pas accomplir, notamment plonger toute une journée au fond de la mer pour batailler avec un poulpe géant. On est donc bien ici dans les limites de la définition de l'animisme, c'est-à-dire généralisation au non-humain d'une intériorité humaine, de capacité sociale de type humain, et discontinuité des physicalités corporelles, ouvrant chacune à des mondes particuliers. Mais en sus de cela, cette tribu espèce des orques, elle est fractionnée en quatre groupes totémiques, analogues à ceux des quatre clans Tsimshian, dont les chefs portent sur le corps un signe distinctif qui signale leur appartenance totémique, en l'occurrence une apparence particulière de la nageoire dorsale. Ces blasons, ce ne sont donc pas de simples images figurant une composition symbolique, ce sont des traces, des indices de qualité substantielle qui sont propres à chacun des quatre ensembles et que le nom d'un animal totémique vient désigner. C'est pour cela que, comme c'est le cas dans ce récit, des orques peuvent appartenir au groupe totémique des orques, sans que ce redoublement, qui serait inutile d'un simple point de vue classificatoire, ne pose un problème de cohérence logique. Parce qu'il y a la tribu espèce des orques, donc il y a des orques en régime animique, ils sont membres d'une tribu espèce particulière, et puis ils sont en outre orques en régime totémique, c'est-à-dire en tant qu'ils possèdent des qualités contrastives qui les distinguent comme orques-orques des orques-corbeaux ou des orques-loups. Deux autres similitudes avec le totémisme australien méritent aussi d'être soulignées. D'abord le fait que, dans le cas présent, comme en Australie, les motifs des blasons sont des attributs intrinsèques des êtres totémiques dont ils manifestent de façon visible les propriétés et non pas des parures ou des décorations. Ils font partie du corps même des êtres totémiques qu'ils représentent et forment de ce fait le patrimoine iconique de la classe totémique à laquelle ils sont associés. Et c'est parce que ces motifs, en Australie et chez les Tsimshian, incorporent les dispositions et les pouvoirs des êtres totémiques qu'ils peuvent être employés dans les rites où leur puissance génésique sera mobilisée au profit de tous les membres du groupe. L'autre trait commun, c'est l'idée que l'ordre totémique, sinon ses manifestations particulières, existe de toute éternité, et notamment au temps du mythe ou au temps du rêve. Les existants y sont déjà divisés en classes, chacune dotée d'une identité ontologique singulière, constituant ainsi une sorte de gabarit général qui ordonne l'ensemble du cosmos. Et à cela, les Tsimshian ajoutent une possibilité de subdivision ultérieure fondée sur des rencontres entre un ancêtre et un non-humain, expérience à chaque fois singulière et qui aboutissent à diversifier les pouvoirs et les attributs dont les humains de chaque groupe peuvent disposer, ce qui contribue à en faire autant d'espèces distinctes, si l'on veut, à l'intérieur d'un même ensemble. Alors, revoyons maintenant les images, et plus concrètement, les images Tsimshian qui relèvent d'un régime animique, et voyons-les, puisqu'on ne les a pas encore vues, et celles qui relèvent d'un régime totémique. On verra que, on a vu qu'elles se différenciaient par ce qu'elles sont réputées figurer, la façon dont on les obtient, le statut de ceux qui les fabriquent, etc. Mais on va le voir, les conventions figuratives elles-mêmes sont relativement uniformes pour les deux genres d'images. Alors pour commencer à aborder le problème, examinons des images un peu inattendues pour nous, en tout cas, ce sont des hameçons sculptés pour la pêche au flétan que Marius Barbeau a collecté et dont il a donné des commentaires. On est très dépendant, bien sûr, dans des cas pareils, des collectes faites par les ethnographes. Fort heureusement, Marius Barbeau a laissé des notes extrêmement précises sur la plupart des objets qu'il a recueillis. Et il précise que les sculptures de harpons à flétan, ou de, plus exactement de hameçons à flétan, ne représentent pas des blasons. Elles ont simplement pour fonction d'avoir de la chance à la pêche. Le flétan est supposé choisir le hameçon, je le cite, le plus attractif pour se faire prendre. C'est le cas, par exemple, de cet exemple. Alors, ce n'est pas de très bonne photo, on ne distingue pas toujours très bien les images. Ça représente un oiseau sous-marin, c'est-à-dire un esprit nashnok, qui n'est pas utilisé comme un blason. Mais beaucoup, c'est ça la difficulté, beaucoup de ces hameçons sculptés représentent aussi des blasons, mais qui ne sont pas ceux des propriétaires du hameçon. C'est le cas, par exemple, de celui-ci, qui a été identifié comme le grizzly de l'eau. Donc c'est un blason, on l'a vu tout à l'heure, et on a vu à la suite de quelles circonstances le grizzly de l'eau était devenu tel, qui appartient à un clan différent néanmoins de celui du propriétaire du hameçon. Ou bien on a celui-ci, qui est identifié comme un chabot, c'est un poisson, un sculpin en anglais, avec deux aigles dans la bouche. Donc on a ici, et là, on a ici le poisson, et il a deux aigles dans la bouche. Il faudrait en voir de nombreuses des figurations sous d'autres angles pour bien distinguer, évidemment, l'image. Et il est appelé mordeur deux aigles. Le chabot, c'est un poisson qui a la réputation de pouvoir capturer n'importe quel type de poisson, y compris parfois des oiseaux, et c'est donc un animal qui porte chance. Là encore, le chabot n'est pas un blason du clan du propriétaire. Autrement dit, les hameçons sculptés de ce type, c'était des objets du type nashnok, donc des objets, des images animiques, sur lesquels étaient sculptés des animaux qui n'étaient pas des blasons des propriétaires du hameçon, mais qui pouvaient être figurés comme des blasons par ceux qui avaient le droit de les figurer comme des blasons sur d'autres types de supports. Les images les plus spectaculaires de blasons, elles étaient donc sur d'autres types de supports, essentiellement sur des frontons de maison et sur des mâts héraldiques. La forme la plus ancienne, probablement, c'était sur les frontons de maison, les mâts héraldiques étant, et surtout leur multiplication étant un effet probablement d'une certaine modernisation, notamment des techniques. Les mâts, en plus, avaient surtout une fonction commémorative. Et ils étaient devenus communs à la fin du XIXe siècle, alors que les peintures sur les frontons de maison étaient devenues beaucoup plus rares, ce qui fait que malheureusement, on a peu de photos de peintures sur des frontons de maison in situ. On en a une qui est une photo qui a été prise en 1875, probablement à Fort Simpson, et qui donne, malgré la mauvaise qualité de la photo, une bonne idée de ce que devait être un blason complexe. Donc on note deux orques, hein, ici et ici, qui encadrent une figure centrale, à l'intérieur de laquelle figure la porte et de la maison est ménagée. Donc ça, c'est le fronton, bien sûr. Il est possible que ce soit, malheureusement, on n'a pas de commentaire, que ces deux orques soient un cas de représentation dédoublée, split representation, pour employer la terminologie officielle, ou de représentation éclatée, les deux orques pouvant simplement figurer les deux flancs d'un seul animal déployé de part et d'autre de son axe central, même s'ils ne sont pas reliés, alors qu'en général, dans la figuration dédoublée, le dédoublement se fait à partir d'un axe central dans lequel les deux flancs, en quelque sorte, sont réunis sur cet axe de symétrie centrale. Tout semble indiquer, en tout cas, qu'il s'agit d'une maison Gispé-Woodwadé, dont l'orque est l'animal totémique. Voilà une autre image d'un ours, cette fois-ci. C'est une image d'un croquis simplifié de Boas, mais qui présente un cas sans équivoque de figuration dédoublée, qui fut d'ailleurs commenté par Claude Lévi-Strauss. Et Boas précise que les Tsimshian appellent ce type de motif « rencontre d'ours », comme si deux ours étaient représentés. Donc ici c'est la porte d'entrée. Donc là, c'est un croquis, mais il faut imaginer que la maison, les deux pans du fronton se déploient de part et d'autre. Et puis l'axe de symétrie est ici, et c'est donc les deux flancs qui sont figurés ouverts, comme ça, dans cette image. Alors, on peut faire une hypothèse, à savoir que chez les Tsimshian, la représentation dédoublée est commune sur tous les objets dont on sait sans équivoque qu'ils sont des supports de blason. Ce sont les frontons de maison, ce sont les chapeaux, ce sont les costumes, ce sont les boîtes. Il n'est donc pas impossible que ce soit l'une des rares caractéristiques formelles qui permettent de distinguer, en dehors d'autres critères que l'on examinera un peu plus tard, comme la nature du support, entre une image totémique et une image animique du même animal. Le point ne pourra être établi qu'après une enquête systématique reprenant la totalité de la documentation iconographique existante, ce qui est un travail qui reste à faire. S'il y a des candidats, ils sont les bienvenus. C'est un beau sujet de thèse, par exemple. Alors, examinons une autre image d'ours fonctionnant comme un blason, alors là, sur un mât héraldique. Donc, c'est une étude, je tire ça d'une étude d'Anne Chapman sur la collection Barbeau. C'est un monument, en l'occurrence funéraire, qui est érigé à la mémoire d'un chef de maison provenant d'un village sur le fleuve Nass, en Colombie-Britannique, donc peuplé par des Indiens qui sont une des branches, je l'ai dit, des Tsimshian. Le chef de maison en question était du clan Lou, d'origine Tlingit. Et lors d'une migration, les gens de ce clan se sont réunis à certains Tsimshian du clan Ours, adoptant ainsi le blason de l'ours. Et le mythe qui se rapporte à cet emblème, on peut le résumer ainsi. Il y avait une jeune femme qui s'appelait Pesunt. Elle va cueillir des myrtilles. Elle se moque des ours en tenant à leur égard des propos irrespectueux. Un soir, elle rencontre deux jeunes gens séduisants qui portent des robes en peau d'ours, et qui, donc, même module que ce qu'on a vu précédemment, qui la conduisent à une grande maison dans la montagne, habitée par un grand nombre de gens qui portent aussi des fourrures d'ours. C'est la maison des ours grizzly. Pesunt épouse le neveu du chef des ours et donne naissance à des jumeaux qui sont moitié humains, moitié ours. Mais les frères de Pesunt était à sa recherche et finissent par la découvrir. Ils tuent le mari ours grizzly de leur sœur. Avant de mourir, celui-ci a le temps d'enseigner à sa femme deux chants rituels que les chasseurs doivent chanter sur le cadavre des ours pour s'assurer d'avoir de la chance. Quant aux enfants de Pesunt, ils menaient leurs oncles aux tanières des ours dans la montagne et les aider à poser des pièges. grâce au chant qu'il chantait sur les ours morts, les gens de cette maison eurent beaucoup de succès à la chasse à l'ours et ils adoptèrent comme emblème l'ours pris au piège. Alors, la grande figure à la base, hein, mi-animal, mi-humaine, eh bien, c'est l'emblème, non pas des ours, mais du clan loup, puisque on y voit Pessunt, qui est la mère des oursons, et elle tient l'un des oursons dans son giron. Le fait que le clan loup soit représenté par la mère des ours montre bien, mère des ours, qui est mère des ours parce qu'elle a épousé un ours, montre bien d'ailleurs que l'usage de ces emblèmes ne correspond pas à un totémisme purement classificatoire au sens de Lévi-Strauss, puisque l'ours ici n'a aucun rapport avec le loup et fait seulement référence à des privilèges de chasse acquis par les membres du clan dans des circonstances singulières que le mât héraldique a pour fonction rappeler. Vous pouvez noter les petites oreilles, les petites images dans les oreilles de Pessunt qui sont interprétées comme une figuration des sens animaux suraigus que possédait Pessunt, qu'elle avait acquis pendant sa vie, son séjour chez les ours. Et la sculpture, d'une certaine façon, si on suit cette interprétation, savoir que ceci représente un talent particulier, une sensibilité particulière de Louis, montre que d'une certaine façon, Pessunt, tout en restant humaine, s'était en quelque sorte oursifiée. Comment est-ce qu'elle s'était oursifiée ? Ben, s'était oursifiée en adoptant le point de vue de l'ours, en voyant son mari, ses enfants et tous les gens du village de l'ours avec le point de vue de l'ours. Donc on a ici un cas intéressant de perspectivisme totémique, si vous voulez. Au-dessus, vous avez trois figures féminines anthropomorphes, ici, dans une attitude typique, avec les mains levées, les paumes tournées vers l'extérieur, la photo est malheureusement pas très bonne, que l'on retrouve sur plusieurs mâts de la région, qui évoque peut-être les compagnes qui accompagnaient Pessunt lorsqu'elle est partie au départ chercher des myrtilles. Et la grande sculpture du sommet figure le grizzly, c'est-à-dire l'époux de Pessunt, et il tient entre ses jambes l'autre jumeau ourson. Une autre façon de représenter des blasons, en dehors, qui est en quelque sorte une combinaison entre les mains héraldiques de ce type-là et les frontons peints de Béson, et qui est assez caractéristique du goût pour la théâtralité et le burlesque que, comme je l'ai déjà dit, manifestaient les peuples de la côte nord-ouest, consistait à rajouter devant la porte d'entrée un dispositif mécanique ayant la forme de l'animal totémique et au travers duquel les visiteurs devaient passer pour pénétrer dans la maison. On n'a pas de photos, on en a juste des descriptions. C'était par exemple une gueule de grizzly qui s'ouvrait pour laisser entrer les invités, lesquels étaient ainsi dévorés par l'animal totémique de la maison lorsqu'il rentrait dans la maison. J'entends les visiteurs. Ou bien c'était un bec de corbeau géant qui pointait non pas vers l'extérieur mais vers l'intérieur, de sorte que les invités, dans ce cas, les visiteurs, étaient métaphoriquement vomis dans la maison. Et ce genre d'appendice était généralement le privilège des maisons de haut rang, puisque c'était les seuls qui pouvaient se permettre de soumettre leurs visiteurs à l'épreuve plutôt indigne d'être soit mangé, soit vomi par l'animal totémique d'un autre clan. Mais cet aspect cannibale du blason est intéressant parce qu'au fond, c'est une bonne indication de ce que celui-ci est au fond plus qu'un simple emblème dénotant symboliquement un groupe social. Il fonctionne ici comme, enfin ce dispositif fonctionne comme un agent apparemment autonome qui synthétise dans son fonctionnement organique, il avale ou il vomit, les qualités de la maison dont il est le gardien. Alors examinons à présent des images Nashnok, non plus des blasons, mais des images animiques, plus précisément des masques qui ont été, encore une fois, collectés par Marius Barbeau. Je vous en montrerai trois. C'est un masque de loup. Vous voyez qu'il y a quand même une différence dans la figuration. Il y a un effet de réalisme, avec, encore une fois, des petites représentations de visages sur les oreilles qui signalent probablement l'acuité auditive, comme si les oreilles étaient dotées d'une sorte d'autonomie et d'indépendance agentive propre. Un masque de carcajou, un masque Nashnok encore, c'est féroce, hein, comme le sont les carcajous d'ailleurs, et un masque Nashnok dit du grizzly de l'eau. La différence avec les blasons, elle n'est pas tant dans les conventions stylistiques, dont on voit que finalement elles sont assez proches, hein, mais dans des propriétés qui découlent de la pragmatique de l'usage des masques. Ces masques sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas employés en composition, comme les autres images, mais qu'ils figurent des singularités. Et ils sont assez réalistes, suffisamment réalistes en tout cas, pour qu'un danseur revêtant l'un de ces masques puisse, dans la pénombre d'une maison, créer l'illusion qu'il incarne l'esprit de l'animal. Et ce contraste devient plus net encore si l'on compare des représentations d'une même espèce en images blason et en images Nashnok, surtout lorsqu'elles sont portées l'une et l'autre sur la tête. Par exemple, ça c'est un masque d'aigle, aigle personne, c'est son nom. C'est un masque donc Nashnok, mais qui était en usage dans une maison qui avait aussi l'aigle comme blason. Donc porté, hein, on voit il y a une espèce de, il y a le voile qui permet de dissimuler une partie, de dissimuler le visage, et c'était porté en fait un peu comme une casquette. Autre masque Nashnok, dont on voit là, il est déployé assez bien comme on peut le porter. Il était porté, c'est un masque d'aigle, donc lors des potlatches. Mais tout indique que c'est un masque Nashnok dans la mesure où le porteur de masque avait un comportement, nous dit-on, tout à fait typique des personnages qui incarnent un esprit Nashnok, c'est-à-dire qu'il allait dans la foule des visiteurs, il donnait des coups de griffe, de cerf en l'occurrence, à ceux qu'il rencontrait. Et puis vous avez ici un fronto. Alors c'est un fronto, c'est une image, c'est un dessin qui est tiré de Primitive Art de Boas. Donc vous savez, ce sont ces espèces de visières qu'on portait sur le front. Et ce fronto, est typique, lui, d'un écu, avec sa composition complexe et au fond assez peu réaliste, puisque les ailes, par exemple, elles sont sur les côtés, hein, les ailes, elles sont figurées repliées, non pas comme elles devraient l'être, mais vers l'avant, hein, repliées sur le ventre, et non vers l'arrière, c'est-à-dire vers le dos. L'articulation de l'aile est indiquée par un visage humanoïde. Les pattes sont représentées dépassant des ailes, et une grenouille est située sur le ventre de l'animal. Parfois, le blason était formé d'une tête animale réelle, naturalisée, voire de la totalité de la peau, tannée et portée en costume, un privilège qui était réservé aux chefs et aux personnes de statut élevé. Vous vous souviendrez que c'est l'image que nous avons vue tout à l'heure du chef loup blanc portant le costume corporel, si je puis dire, que son ancêtre a acquis en volant la peau de loup blanc. Et ceci peut être interprété comme une indication de ce que les chefs, détenteurs des blasons pour le compte de la maison, étaient vus comme seuls capables de personnifier pleinement l'animal totémique en revêtant sa dépouille, donc plus proche dans leur identité propre du noyau de qualité définissant cet être prototypique, ce qui milite pour une interprétation, encore une fois, plus ontologique que classificatoire du totémisme Tsimshian. Je vois que l'heure file, parce qu'il est déjà 3h06. Je ferai la synthèse de toutes les caractéristiques de ces deux types d'images au début de la prochaine séance, qui nous introduira d'ailleurs à des questions que je vais traiter après, puisqu'il y a une question de construction géométrique des images qui va nous faire déboucher sur la question que j'ai dit que je traiterai par la suite, qui est celle de la géométrie représentationnelle comme indice des différences entre les ontologies. Voilà.